Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, nous commençons cette émission par vous présenter nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l'année 2021. Aujourd'hui, nous parlerons de la parution récente d'un ouvrage aux éditions des Sirtes sous le titre général « Sermon au pied de la montagne » qui réunit deux groupes d'homélies de Nicolas Velimirovitch, évêque serbe du XXe siècle, dont la sainteté fut proclamée en 2003. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Ljubomir Mihailovic, traducteur de ces textes, comme des lettres missionnaires du même auteur. Ljubomir Mihailovic, nous avons déjà eu l'occasion de parler ensemble à ce micro de la personnalité exceptionnelle de l'évêque Nicolas. Commençons donc par situer les sermons dont nous parlerons aujourd'hui dans sa vie et son œuvre.
Les sermons au pied de la montagne sont publiés en 1912. L'évêque Nicolas a 32 ans. Il est devenu hiéromoine en 1909 et ses sermons, donc publiés en 1912, connaissent aussitôt un très grand retentissement, et notamment auprès de la jeunesse. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils répondent, je vais dire, ils interviennent, ils paraissent, alors que l'environnement international en 1912 est très inquiétant, plein de sourdes menaces, de tensions croissantes entre les grandes puissances. À cette époque déjà, la société est travaillée par l'individualisme, l'égoïsme, le souci du confort, la volonté de profiter des derniers acquis de la technique, de profiter à plein des possibilités offertes par le progrès matériel. C'est dans ce contexte que la parution des sermons au pied de la montagne intervient comme un appel à un dépassement de soi, à des idéaux d'altruisme et de fraternité, donc à des aspirations spirituelles qui dépassent le strict horizon du bien-être individuel. L'apparition de ce livre permettra à plusieurs générations de relire ou de redécouvrir l'Évangile, de redécouvrir de nombreux épisodes de l'Écriture sainte et de connaître ainsi une véritable régénération spirituelle. Cela à la veille de la Grande Guerre. Et c'est au lendemain de la Grande Guerre que l'évêque Nicolas publie en 1923, il a 43 ans, les nouveaux sermons au pied de la montagne. L'apparition de ce livre lui paraît d'autant plus nécessaire que la Serbie est confrontée à cette époque, donc au lendemain de la Grande Guerre, à une situation matérielle très difficile. Ce pays a perdu 43% de sa population globale et il y a un demi-million d'orphelins. Donc situation matérielle très difficile et une crise morale sans précédent qui se manifeste par une perte de repères, un désarroi, une anxiété, notamment chez les plus jeunes. Face au développement d'un individualisme matérialiste et à l'apparition d'une morosité croissante, l'auteur des sermons cherche à redonner confiance à ses lecteurs, à susciter une prise de conscience de la grandeur de l'homme, à insuffler optimisme et foi dans l'avenir.
Merci beaucoup. Alors, avant de passer au détail, je dirais, une remarque très importante, c'est que ce que vous venez de décrire, qui s'adresse à une société en crise terrible à l'époque, hein, là où il vit et là où il prêche, s'adresse aussi à la société actuelle avec voilà, une actualité qui est terrible. Il y a la crise sanitaire, il y a la crise économique, il y a la crise morale, il y a la crise de la jeunesse. Nous allons voir qu'il s'adresse aux jeunes pour prêcher en fait l'optimisme, et pour chasser le pessimisme qui est le leur à l'époque où il parle. On va voir également qu'il appelle à la victoire, il croit aussi à la victoire finale du bien. Donc l'optimisme est une chose qui est récurrente chez lui, très actuelle pour son époque, mais qui nous parle directement. Alors on va rentrer maintenant, si vous voulez bien, au vif du sujet pour voir sa pensée de plus près.
L'originalité des sermons au pied de la montagne tient au fait que les sujets traités par l'auteur, comme vous l'avez dit, restent parfaitement d'actualité, un siècle pratiquement après la parution de ses livres. Comme il y a 100 ans, l'homme se trouve confronté à des problèmes devant lesquels il se sent désemparé, quasiment désarmé, sans savoir comment retrouver confiance et espérance dans l'avenir. Et c'est là que la vision spirituelle de l'évêque Nicolas peut aider à surmonter les épreuves, à ne jamais désespérer. L'auteur ne cherche pas à nous impressionner par l'étendue de ses connaissances, à nous donner des leçons. Contrairement à tant d'autres, ses sermons ne sont jamais ennuyeux, moralisateurs, routiniers. Par la seule magie de son verbe, par la musique de ses mots, par les images toujours empreintes de noblesse et d'élégance tout en étant concrètes, puisées dans la vie quotidienne, l'évêque Nicolas réussit à nous surprendre. En nous imprégnant des textes des sermons, nous retrouvons imperceptiblement, sans même nous en rendre compte, la joie ineffable, l'enthousiasme juvénile qui animait sans doute les chrétiens des premiers siècles de notre ère. Et cette magie du verbe est confirmée par la liberté de ton de l'auteur. Saint Nicolas Velimirovitch est un homme libre qui aime les gens. Né dans une famille rurale en 1880, il se sent à l'aise dans tous les milieux, attaché à ses racines paysannes, serbes. Il est ouvert à toutes les cultures, qu'il joue un air traditionnel sur sa flûte au milieu de paysans ou qu'il prêche en anglais dans la cathédrale Saint-Paul à Londres, il est exactement le même, c'est-à-dire un homme s'adressant à ses frères afin de leur transmettre l'enseignement du Christ. Cette liberté de ton de l'évêque Nicolas se manifeste tout au long des sermons. Il cherche à nous affranchir des préjugés hypocrites, des comportements pharisiens. La liberté de penser, écrit-il, c'est le courage de désherber son âme de pensées basses et indignes qui, telles livrées, poussent de façon touffue au milieu des rangs clairsemés de grandes pensées. « Ah, mes frères, nous conjure-t-il, soyons donc des tyrans pour nos pensées sordides avant que ces pensées deviennent notre propre tyran. » Et cette liberté de ton, l'évêque Nicolas l'emploie, je dirais, à l'égard de tout le monde, notamment des marchands du temple, entre guillemets, dont il dénonce les méfaits dans tous les domaines économiques, politiques, scientifiques, mais aussi religieux. Citons simplement un extrait. « Celui qui déverse, écrit-il, celui qui déverse beaucoup de paroles en priant Dieu, fait du commerce avec la prière, car il considère que Dieu lui viendra d'autant plus en aide qu'il aura prononcé davantage de mots de prière devant lui. » Dans un autre passage, tout aussi libre de ton, l'auteur dénonce les savants, pour qui la lumière de la science ne parvient pas jusqu'au cœur. La science éclaire seulement leur intelligence, mais l'assombrit leur cœur. Le message de l'évêque Nicolas est d'abord, je dirais, un appel à la bienveillance, à l'amour des autres, à l'amour du prochain.
Nous allons maintenant écouter une musique, mais avant la musique, je voudrais juste citer la fin d'une homélie, un sermon donc sur la victoire finale du bien pour voir quel est son optimisme et son appel à la société. Ravivons notre foi en conscience, ravivons notre vie par la foi. Heureux soit celui qui, croyant en Dieu, croit dans la victoire finale du bien dans le monde. Longtemps encore, le monde continuera. Non, le monde ne sombrera jamais. Il s'achèvera par la victoire et le triomphe du bien. Voilà quelle était sa pensée, ça résume très bien, si vous voulez, l'optimisme du vrai chrétien. Alors maintenant, on fait une entrée dans l'église ou dans une fête. Vous allez nous expliquer un peu ce qui se passe. Nous sommes donc au Serbie, c'est des jeunes plutôt qu'on va entendre, qui chantent, les jeunes qui sont très présents dans la pensée de Saint-Nicolas. Et c'est un chant traditionnel de Noël, enregistré au monastère Fenek, qui se situe dans la région de Vojvodine.
Oh,
C'était un chant traditionnel de Noël, donc enregistré au monastère Fenek, dans la région de Voïvodine. Lyubomir Mikhailovitch, nous allons reparler évidemment du Saint-Évêque Nicolas Velimirovitch et du livre que vous venez de traduire, « Sermon au pied de la montagne », mais avant, une explication sur le chant que l'on vient d'entendre.
C'est un chant traditionnel que ces adolescents ont chanté au monastère de Fenek le réveillon du Noël 2019, le 6 janvier 2019. Alors revenons, si vous voulez bien, à l'évêque Nicolas. Je dirais, ce qui le caractérise, on l'a dit, c'est l'optimisme et la bienveillance. Peut-être la bienveillance à l'égard des autres d'abord. Pourquoi ? Parce qu'il nous rappelle à tous l'origine transcendante de l'homme et sa nature royale. Ayons la patience, nous dit-il, de rechercher chez les autres, sous leurs péchés et leurs vices, leur légitimité royale. Croyez-moi, nous la trouverons. Le plus grand pécheur la détient cachée dans un recoin de son âme. Dans un autre sermon sur le sang des justes, il dénonce l'égoïsme ambiant et met en exergue la beauté du sacrifice en faveur des plus faibles. Il écrit « Quand nous faisons un sacrifice, n'attendons pas de récompense immédiate ni de reconnaissance de la part de ceux pour lesquels nous nous sacrifions. » Et enfin, il insiste sur l'attention qui doit être accordée aux petits, à tous ceux que la vie a laissés au bord de la route. Il rappelle que l'héroïsme se manifeste dans les petites choses de la vie aussi bien que dans les grandes. Mais, ajoute-t-il, le héros est toujours optimiste. Il possède un talisman, c'est sa foi. C'est de cette foi que provient sa confiance dans la vie.
Nous allons donc maintenant passer à un thème très important et terriblement actuel, qui est celui de l'optimisme qui manque chez les jeunes, dans toute la société, mais les jeunes en particulier. Et donc, il y a un long sermon sur le pessimisme des jeunes. Alors, évidemment, vous allez nous présenter ça. Je voulais juste relever un point très important, d'emblée même, où il explique aux jeunes ce qu'il faut regarder chez l'homme. Alors, en tout début, il dit « Sachez que notre position sociale dépend plus de la société où nous nous trouvons que de nous-mêmes. Ne vous laissez donc pas tromper et n'appréciez pas un homme selon sa position sociale. N'appréciez pas un homme à partir de ce qui existe en lui indépendamment de lui, mais appréciez-le à partir de ce qui dépend personnellement de lui en lui-même. » Et c'est merveilleux parce qu'il met le projecteur, je dirais, sur l'être humain. Il demande à oublier tout le contexte, etc. C'est vraiment une position terriblement, je dirais, chrétienne, qui est centrée sur la personne et qui fait abstraction des difficultés et du mal qui peut venir. Alors, vous allez nous présenter cette homélie et nous allons peut-être terminer en lisant un extrait de ça.
Alors, Saint-Nicolas comprend parfaitement le pessimisme des jeunes. N'oublions pas le contexte matériel très difficile de l'époque. Mais il demande à son jeune auditoire, il s'adresse à la jeunesse universitaire, de ne pas s'abandonner au pessimisme. Car, dit-il, votre pessimisme sera une insulte, non seulement pour votre patrie, mais pour toute l'humanité. L'humanité, dit-il, est une fraternité, même si les liens de fraternité ont été rompus. Votre pessimisme sera aussi une insulte pour tout l'univers. Et enfin, votre pessimisme sera une insulte pour le Créateur du monde qui ne vous a pas créé pour que vous vous plaigniez de ses œuvres, mais afin de montrer les vôtres. Dans son plaidoyer pour l'optimisme, il cite notamment le cas d'une Américaine, Helen Keller, qui est née en 1880 et qui est morte en 1968, sourde et muette, aveugle dès l'âge de 2 ans, qui fut la première personne handicapée à obtenir un diplôme universitaire. Or, dit-il, non seulement elle supporte et aime la vie, mais elle la consacre à faire du bien aux autres, aux humiliés et aux offensés, aux découragés et aux désespérés. Il est profondément attaché à la culture, sous toutes ses formes. C'est un esprit libre et ouvert, c'est-à-dire le contraire d'un soi-disant réactionnaire. Profondément attaché à la culture, il s'attache à tirer profit des talents. Il dit que tout homme a des talents, souvent infimes, mais qui doivent être mis en valeur. Vous ne devez pas enterrer cette compétence, dit-il, même infime, comme le serviteur déraisonnable avait enterré le talent qu'il avait reçu de son maître, Matthieu 25.
Ce qui serait peut-être très important, c'est d'insister sur le fait que nous avons affaire à quelqu'un qui est très libre, comme vous avez déjà dit, et qui n'est en fait ni révolutionnaire pour être révolutionnaire, ni réactionnaire, c'est-à-dire contre tout progrès. Parce que lui-même a fait des études très poussées, il a fait 2 doctorats, je crois, c'est ça, il est docteur en théologie et en philosophie, il a voyagé beaucoup, il parle des langues, etc. Vous avez dit qu'il... Il dénonçait parfois des gens de culture, etc. Il n'est pas contre la culture, puisque lui-même est d'une grande culture. Mais il est contre un usage, je dirais, déshumanisé de la culture et très technique. Il n'est pas contre le progrès du tout. Mais là aussi, l'important pour lui, c'est de mettre l'être humain en avant et au centre de la pensée et non pas la technique. On voit que pour tout ceci, il reste un homme extrêmement libre et, comme nous l'avons dit, terriblement actuel. Alors, l'optimisme qu'il prêche, il donne aussi un remède, je dirais, il donne un conseil. Évidemment, il s'adresse à des jeunes qui sont complètement désœuvrés à la fin de la Première Guerre. Vous avez dit que la société dans laquelle il se trouve est terriblement éprouvée. C'est le travail. Il donne le travail comme remède et il dit travailler, travailler, travailler. Et comme ça, vous allez voir que l'optimisme viendra. C'est une sorte de conseil pratique qu'il donne aussi. Il a toujours la facilité de donner des conseils pratiques qui permettent de suivre le chemin qu'il conseille. Et on voit bien à quel point il est proche des gens. Alors, nous allons peut-être terminer par une dernière partie qui est justement consacrée sur... ce qui est son appel fondamental pour l'optimisme et son appel très profond aux jeunes de son époque, mais je crois aussi aux jeunes de notre époque.
Oui, c'est peut-être le dernier texte de ce recueil qui s'appelle « Le sermon sur la victoire finale du bien » qui résume le mieux la pensée de l'auteur. Saint Nicolas est très conscient des avancées de la science et des progrès de la technique et il les salue. Mais il met en garde parce que certains pourraient avoir l'illusion de pouvoir combler tous les besoins de l'homme et il analyse les effets de tout cela avec une prescience prodigieuse. Il constate que les hommes consacrent plus de temps et d'efforts à développer leurs capacités techniques que leur caractère. Il existe, dit-il, aujourd'hui beaucoup de bons experts et de spécialistes, mais il y a peu d'hommes de caractère, à l'inverse des époques précédentes. Jadis, nous dit-il, l'homme était la mesure de toute chose, maintenant la chose est devenue la mesure de l'homme. Mais il n'est nullement opposé au progrès des sciences et des techniques. Ce n'est pas un rétrograde, ce n'est pas un passéiste. Au contraire, il est moderne parce qu'il est éternel. Il conclut en ces termes « Chérissons la culture de la technique. La technique est l'orgueil de notre temps. Mais chérissons encore plus la culture de l'âme, car l'âme humaine est l'orgueil de tous les temps. »
Écoutez, merci beaucoup et j'ai envie de terminer cette émission par une citation, bien sûr, toujours de Nicolas Velimirovitch. C'est tiré du sermon aux jeunes contre le pessimisme, toujours, et il dit aux jeunes, donc, « Votre pessimisme sera aussi une insulte pour tout l'univers, une insulte pour les étoiles qui, la nuit, sont à l'écoute de vos pensées, de vos projets, une insulte aussi pour le soleil, qui tous les jours observe de son grand œil sincère et optimiste vos activités. Et enfin, votre pessimisme sera une insulte pour le Créateur du monde, qui ne vous a pas créé pour que vous vous plaigniez de ses œuvres, mais afin de montrer les vôtres. » Alors voilà quelle est la pensée de ce saint évêque, donc Nicolas Velimirovitch, ce qu'on trouve dans le livre « Les sermons au pied de la montagne » qui vient de paraître aux éditions des Sirtes. Lyubomir Mikhailovitch, un grand merci. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Un grand merci à Anne Pérez pour la réalisation de cette émission dans les circonstances particulières imposées par la crise sanitaire. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Voici maintenant le service protestant.